pourquoi je pars et pourquoi je m'intéresse à l'Irak. D'abord parce que au Parlement européen, je suis à la commission affaires étrangères et que j'ai en charge, pour le Parti socialiste en tout cas, le suivi du dossier Irak. Donc en plongeant dans ce dossier, la première chose qui m'a évidemment affolée, comme elle affole tout le monde, c'est l'échec incroyable d'une politique d'embargo que nous avons voulu, pour laquelle nous avons signé vraiment des deux mains. Et malgré cet échec qui s'est avéré assez précoce, quoi, très rapidement, on a compris que Saddam Hussein ne céderait pas. L'embargo est revu tous les 6 mois, on continue l'embargo, on énumère les morts aujourd'hui et on compte d'après les meilleures sources qu'il y en a au moins 1,5 million qui sont dus à l'embargo et 1,5 million, mais c'est vraiment un carnage. Alors,
dites le mot que vous avez sur le bord des lèvres.
Non, c'est un charnier, je voulais dire, mais pour moi c'est insupportable.
Ça s'apparente à un génocide peut-être ?
Je dirais, bon, dans le mot génocide, je l'emploie avec beaucoup de mesures. Génocide, à mon avis, quand on veut tuer. Je ne pense pas que l'ONU a voulu tuer, je ne pense pas que nous ayons voulu tuer le peuple irakien. Je pense qu'au contraire, on a voulu le sauver. Mais ça ne marche pas. Voilà, ça n'a pas.
Quand on a utilisé le mot pour moins que ça. Hein.
Oui, mais je crois que génocide, c'est vrai. Il y a le nombre de morts largement voulu pour un génocide. Il n'y a pas l'intention maligne du côté de l'ONU de les tuer. Mais maintenant qu'on le sait, il faut arrêter. Maintenant, ça deviendrait un génocide. Alors, ce qui serait un génocide pour moi, c'est une guerre en Irak. Une guerre en Irak avec des nouveaux moyens, des nouvelles armes. Qui serait terrible, une guerre en Irak qui va vraiment, comme je l'ai dit, embraser cette région, parce que ça ne demande qu'à sauter, parce qu'on sait que toute cette région, et pas seulement l'Irak, sont surarmées, que l'Irak, l'Iran, la Syrie possèdent des armes chimiques, bon, pas seulement eux, mais que c'est un problème régional et qu'on est en train de diaboliser un pays alors qu'on sait que c'est un problème régional et c'est dans cette région-là qu'on va aller mettre une instabilité. Pour moi, c'est une catastrophe. Alors, si en faisant cette guerre de propagande, comme on l'a maintenant, on veut forcer Saddam Hussein à changer une politique interne, ben, qu'on le dise à ce moment-là, et qu'on dise, ok, ben, il faut rétablir davantage les droits de l'homme, il faut éviter les persécutions ethniques, comme, bon, il y en a eu dans le passé, donc il faut modifier quelque chose là. Ben, est-ce que c'est par une guerre qu'on va modifier ça? Non, ça c'est impensable. Bon. Et je suis très en colère pour ça, et c'est pour ça que je pars. Et c'est vrai, nous sommes dans cette délégation des gens qui ne partageons pas du tout, ni les mêmes analyses politiques souvent, mais sur le plan, pas de guerre, la guerre n'est jamais une solution, pas de guerre et stopper l'embargo, je crois que là, on signe tous.
Vous avez dit tout à l'heure aussi que vous partiez aussi un peu dans le but de stopper la désinformation qui est générale concernant ce dossier. D'où vient-elle exactement cette désinformation? Des gouvernements, des médias ou bien des autres eurodéputés par exemple qui sont tout de même au courant via les rapports, etc. et qui ne disent rien? Qui est responsable d'après vous?
Mais... Bon, je pense que notre propre sentiment de culpabilité et d'impuissance sont les vrais responsables de ces désinformations. Je veux dire par là, on a évidemment la propagande. On a la propagande américaine, on a la propagande anglaise qui disent bon, il faut Saddam Hussein est une menace pour le monde, il a des armes de destruction massive, etc. Ce que même les dernières missions de l'UNSCOM n'étaient pas tout à fait d'accord de l'admettre, donc il y a beaucoup de suspicions là-dessus. Et puis, il y a nous. Et quand je dis notre sentiment de culpabilité, c'est de nous dire, oui, mais et si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Et alors, on en arrive à dire, oui, mais enfin, vous savez bien que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans ce pays, et vous ne voulez rien faire. Et vous ne voulez rien faire, donc vous allez de nouveau être impuissant. Eux, au moins, ils veulent faire quelque chose, ils vont aller faire la guerre. Et on a, comme ça, un spectre, pour moi, du droit d'ingérence humanitaire, où on nous dit, mais vous êtes beaux, vous, les Européens, de dire que vous ne voulez pas la guerre. Mais regardez, au moins, les Américains, ils vont aller sauver le peuple irakien. Moi, je n'ai pas du tout la même analyse. Je pense qu'il faut faire quelque chose. C'est vrai, mais je pense que nous-mêmes, nous nous laissons aller à cette désinformation tout simplement parce que nous ne savons pas très bien quoi faire dans cette situation difficile. C'est paradoxal, mais c'est mon avis sur la question.
Vous disiez tout à l'heure, les Nations Unies, c'est nous.
Il n'y a pas que les Américains qui ont décidé l'embargo. Je ne veux pas non plus diaboliser les Américains. Je pense qu'ils ont des intérêts économiques évidents dans la région. C'est clair. Qu'ils ont des intérêts aussi, je dirais presque géopolitiques, qui sont en train, parce qu'ils sont les plus puissants et qu'ils le disent, et c'est vrai qu'ils le sont, d'essayer de redessiner une nouvelle carte avec de nouveaux équilibres dans le monde. Ça, c'est évident. Mais je ne veux pas non plus dire l'Irak, aujourd'hui, c'est eux. Non, l'Irak, ce sera nous. Ce sera nous. Et le fait d'aller là-bas, de le montrer, eh bien, je pense que c'est une bonne chose. Il faut dire aussi que nous ne sommes pas les premiers à y aller. J'ai fait un petit inventaire, pour ma part avant de partir, de tous les industriels, y compris belges et les politiques belges, qui sont déjà allés là-bas pour nouer des accords commerciaux. Alors, les humanitaires ont fait beaucoup de bruit parce qu'on est là. Quand les industriels sont en train déjà d'essayer de nouer des marchés importants, ben, en général, c'est plus discret parce que ce n'est pas de si bon ton d'aller en Irak. Mais nous ne sommes pas les premiers à y aller, croyez-moi.
Oui, donc la délégation va en quelque sorte violer l'embargo, mais c'est une toute petite violation très médiatisée, alors qu'il y en a de bien plus grosses qui ne sont pas...
Je ne dis pas que les industriels ont violé l'embargo. Je dis parce qu'il y a une procédure très, très précise pour nouer des contacts commerciaux là-bas. Donc il faut que ça passe par la Belgique et puis ça repasse par un bureau à New York, etc. Et les industriels qui l'ont fait ont suivi cette procédure. Mais je veux dire, tout le monde est à l'affût. On sait que c'est un pays à genoux, riche, mais à genoux, et que donc il y aura des choses à reconstruire. Moi, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Si le commerce va aider à reconstruire l'Irak, j'applaudis aussi dès demain. Mais vous voyez, on n'est pas tout seul à y aller, croyez-moi.
On a parfois l'impression d'une malheureuse coalition entre ceux qui détruisent et ceux qui reconstruisent, où chacun trouve son intérêt.
Dans certains pays, c'est vrai. Dans certains pays, ceux qui ont lâché les bombes ont décroché tous les marchés pour reconstruire. Moi, j'ai dit au Parlement, et je continue à le dire, l'Europe doit justement ne pas bombarder l'Irak, mais la reconstruire. Je crois aussi que nous ne pouvons nous engager résolument là-dedans que s'il y a un signal fort du côté du régime qui sont prêts à aller vers des progrès en matière de droits de l'homme. Je crois que pour avoir les mains claires de ce côté-là, nous attendons vraiment un signal fort. Le fait que, par exemple, l'Irak a rouvert ses portes aux commissions des droits de l'homme des Nations Unies, pas seulement aux inspections sur les armes, est une bonne chose.
On n'entend pas souvent ça.
On n'entend pas souvent, mais c'est vrai. Et je pense que aussi, il faut savoir que ce problème des droits de l'homme, il n'est pas uniquement un problème irakien, qu'il est un problème aussi en Iran, peut-être dans une moindre mesure, qu'il est un problème au Pakistan, qu'il est un problème ailleurs, et que il faut pas de poids et de mesure. Donc, en Turquie aussi. Et pourtant, nous avons de bons rapports avec la Turquie. Donc, c'est là que je dis des informations. Je ne dis pas que tout ce qu'on dit est faux, mais on focalise tout sur un pays alors que c'est une région qui est compliquée, qui est difficile et qui est particulièrement instable.
Pour terminer, vous personnellement, quels sont vos buts concrets? Quand vous rentrez de là-bas, vous allez faire quoi exactement?
Eh bien, le surlendemain, je vais au Parlement défendre le point de vue socialiste sur le fameux dossier Irak dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sera discuté, où dans ce dossier, en clair, nous demandons une fois de plus, mais ça a été déjà demandé très clairement, la levée de l'embargo, absolument, et où nous nous inscrivons en faux, contre, en tout cas, des frappes unilatérales, ou enfin, en tout cas américaines et anglaises, et contre quoi que ce soit qui ne serait pas soutenu par l'ONU. Et vous voyez, c'est là qu'il y a une subtilité, nous nous en remettons à l'ONU, mais il faut le contrôler, l'ONU aussi.
Et vous avez confiance en l'impact du Parlement européen ?
Oh, vous savez, le Parlement n'est pas tout seul, il ne parle pas toujours non plus d'une seule voix, mais le premier acte politique, c'est la parole. S'il n'y a pas de parole, ben, il n'y aura pas de changement non plus. Alors non, l'Europe n'a pas encore de force d'intervention rapide. On n'est pas, et le Parlement en lui-même n'est jamais tout seul à décider, puisqu'il y a le Conseil et la Commission. Mais les paroles sont des actes. On l'a bien vu avec la toute dernière résolution. J'étais à Strasbourg hier, il y avait la résolution sur le Moyen-Orient qui a fait beaucoup de bruit en Israël, qui a beaucoup fâché Sharon, qui a déchiré beaucoup de membres du Parlement européen parce que certains même de socialistes disaient non, on ne peut pas voter ça parce que nous voulons la sécurité d'Israël. On l'a voté parce que la sécurité d'Israël, elle passe par la condamnation de Sharon. Et ça a fait du bruit. Voilà, on va faire un peu de bruit.